Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Merci. À tous les papas qui sont là, soit présents, soit en virtuel par Zoom. À la fête des mères, on donne des conseils, de l'encouragement, une formation pour les mamans et toujours un mois et demi plus tard environ, c'est autour des papas, et on va aller de quelques conseils. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire ce matin, c'est de considérer et lier les deux relations. Et c'est les deux premières relations d'autorité de l'homme, c'est-à-dire... J'aimerais ça que vous la voyez. Prochaine image. Je vais laisser ça à Sébastien, si tu peux mettre l'approche. Excellent. Donc, les deux relations qu'on voit dans Éphésiens, c'est-à-dire la relation mari-femme et la relation père-enfant. Et on va prendre le temps de lire Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Donc, la première relation. Et la deuxième, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. » Et ce qui est spécial, c'est que dans ces deux relations-là, l'homme est nommé comme étant celui qui est en autorité, qui est un chef, hein, le chef de la femme, le chef de la famille, celui qui a une responsabilité. Et c'est dans le terme, dans le contexte des trois relations de soumission. La dernière qu'on ne verra pas, c'est celle qui concerne maître-esclave, maître-serviteur, qui serait employé-employeur à notre époque. Oui. OK, parfait. J'irai peut-être à une autre avant. Si tu peux, au niveau des images. Excellent. Donc, le père est vraiment, dans ces deux relations-là, il est le chef serviteur, et on veut voir ça, envers son épouse et envers ses enfants. C'est pas parce que l'homme est en position d'autorité qu'il peut faire tout ce qu'il veut, hein, ou qu'il peut faire n'importe quoi. Et on est à une époque où peut-être vous écoutez sur par Internet, puis vous dites « Ah, c'est quoi cette affaire-là de chef? L'homme n'est pas plus le chef. » On est à une époque où c'est très sensible, hein, de dire qu'un homme a comme une responsabilité plus grande. C'est vrai que la société a beaucoup évolué, changé, et bien des fois pour le mieux. Mais la Bible nous décrit l'homme comme un chef serviteur, et c'est au bénéfice de la femme, et c'est au bénéfice des enfants. Comme disait dans le film Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, hein? Et la façon... Ce qu'on veut voir spécialement ce matin, c'est que la façon que le père, l'époux, va entrer en relation avec son épouse, va déterminer à bien des égards sa capacité de bien remplir son rôle envers ses enfants. Donc, on va voir les deux. Vous allez voir, on va passer un bon 10 minutes sur Marie, qui est aussi le père, mais comment bien prendre soin de ton épouse. Parce que de la façon que tu agis envers ton épouse, tu as toujours des petits yeux hein, qui sont là, qui te regardent. Et peu importe quel âge ont ces petits yeux-là, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils sont là. Et on est croyant, on est chrétien, on a l'amour de Jésus et il nous regarde. Regarde la façon qu'on agit envers notre épouse. Donc, on veut voir les deux aspects. Le papa chrétien qui traite durement la mère de ses enfants, donc son épouse, va perdre beaucoup de la crédibilité aux yeux de ses enfants. Et comme père, on veut que la relation qu'on a avec notre épouse, la personne avec qui on vit, la personne qu'on a choisie, que ce soit un plus, que ce soit un outil, que ce soit positif pour l'éducation de nos enfants, que ça vienne renforcer. Et j'aime bien cette petite phrase hein, qu'on peut résumer cette aspiration qui doit venir de nos cœurs, un mari aimant au bénéfice des enfants. Donc, on va voir ce premier bloc-là. Vous allez dire, hey, Richard, c'est pas une conférence de couple. Tu nous dis comment être des bons maris. Eh oui, mais les deux vont ensemble. Donc, Marie, aime ta femme. On veut prendre ces quelques instants pour revoir comment le mari peut vraiment aimer son épouse et comment le père, en faisant ça, il enrichit sa famille, puis c'est au bénéfice de ses enfants, que les enfants voient que le mari honore son épouse qui en prend soin. Donc, on est dans Éphésiens, on va voir quelques versets. 5:25, que chacun des hommes, des maris, aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et verset 29 qui dit la même chose, qui complète, il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, pour l'homme aussi, la présence et l'exemple du Seigneur doit faire toute la différence. Quand ça dit « Marie, aime ta femme », ça nous décrit comment, hein? Sinon les hommes, on n'a pas beaucoup d'imagination, on dirait « Mais comment je fais ça pour aimer ma femme? » Comme Christ a aimé l'Église, un amour sacrificiel. Christ, il s'est livré pour son épouse spirituelle, pour l'Église, pour chacun des croyants. Et il a donné sa vie, un amour qui donne sa vie. Donc, comme on voit dans 1 Corinthiens 13, c'est un amour qui souffre. Un amour qui est capable d'endurer, de supporter. Hein? Il endure tout, il supporte tout. Un amour qui gagne le cœur de sa femme à cause de l'engagement du mari envers elle. Donc, la soumission de l'Église, de tous les croyants à travers l'histoire envers Christ, est sur la base d'un amour sacrificiel. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On l'aime parce que Jésus, en premier, nous a aimés. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et nous, les maris, on est appelés à exercer ce genre d'amour-là, où notre femme, elle va passer avant nous. Oui, il y a toujours la place pour que les besoins des deux soient considérés, mais l'homme, comme un chef serviteur, va dire, écoute, moi, je vais être le premier à initier, puis je veux que ma femme passe en premier. Donc, la soumission de l'Église à Christ se fait sur une base volontaire, sacrificielle. Moi, j'ai jamais rien vu dans la Bible, là, dans le Nouveau Testament, que Jésus, une fois qu'on est à lui, qui dit « Hey, écoute, tu as dit que tu m'acceptais, puis là, tu es obligé. » Hey, Jésus faisait le contraire. Hein, quand il y en avait quelques disciples qui s'en allaient, il disait à Pierre, « Vous autres aussi, voulez-vous vous en aller? » Pas pour les envoyer, juste pour dire « Écoutez, vous êtes libres. » Et Pierre qui répond, « Non, on a trouvé que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Donc, le désir de la femme doit venir du cœur, hein, une réponse spontanée, volontaire, de dire, « Écoute, mon mari, il démontre un amour, et moi, c'est un plaisir de m'associer à cet homme-là et de répondre, puis d'embarquer dans une vie à deux. » Verset 28, toujours dans Éphésiens 5, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Hein? » Puis un homme, là, quand ça a faim, là, ça dit-tu, « Oh, moi, j'ai faim et j'ai des besoins, puis oh, c'est pas grave, je vais tout donner aux autres. » Non, non, il a faim, puis, il a soif. Puis, il dit, « Écoute, là, il fallait, c'est normal. » Ben, l'exemple ici, c'est comme naturellement quand on a froid, quand on souffre, hein, si mon doigt est coincé entre deux choses, je vais tout faire pour le libérer de là, parce que mon corps il souffre. Comme je prends naturellement soin de moi, ben c'est de cette façon-là qu'on peut aimer notre femme en prenant soin d'elle. Hein. Ça dit, il la nourrit et en prend soin. Et au niveau étymologique, au niveau du sens, le mot qui est là pour prendre soin, l'expression, c'est l'idée d'une femme qui prend ses enfants dans ses bras. C'est prendre soin comme ça, ce mot-là est appliqué avec cette idée-là dans d'autres contextes. Donc, le mari, ça nous dit qu'il va prendre soin de sa femme, qu'il va lui procurer la sécurité, la chaleur, l'affection. Et là, c'est plus ta mère qui le fait pour toi, c'est toi qui le fais pour la femme de ta vie. Être un mari aimant qui prend soin vraiment de notre époux, ça nous force à devenir un homme. Hein? Si un mari veut prendre soin de sa femme, il doit être stable, il doit être mature, il doit avoir appris à avoir une stabilité dans la vie, être capable d'être fonctionnel pour prendre soin d'une autre personne. Et quand il va avoir appris à prendre soin d'une autre personne, ben là, les deux ensemble, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Prendre soin de d'autres personnes, des enfants qui vont s'ajouter dans la bulle, dans le cercle familial, puis de dire, c'est une joie pour nous d'investir nos vies dans la vie de nos enfants, qui sont la chair de notre chair, qui vont être là toute notre vie, puis on aime tout le monde, mais ces enfants-là sont tout à fait spéciaux. Mais ça commence pour le mari, pour l'homme, envers l'épouse. Hein, les épouses n'acceptaient plus, pas d'un coup, là, un changement progressif, mais n'acceptaient plus d'être la mère de votre mari. Sinon, vous n'aurez jamais de mari qui va prendre soin de vous. Donc, de ne pas avoir de relation de dépendance où c'est tout un qui donne pour l'autre. Et des fois, on parle pas ici de capacité, hein, parce qu'au niveau de prendre soin, je dirais que facilement, la femme a plus de capacité de prendre soin des gens autour d'elle. Mais ce que Dieu veut, c'est de s'assurer qu'une personne aimante qui prend aussi soin de la femme, qui prend soin de l'épouse. 1 Pierre 3:7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. De la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. En 2021, on devrait se dépêcher de rayer ce verset-là, de changer les versions. Hein. Ça griche dans nos oreilles. Quand ça parlait ici de, à la base, c'est une différence physique, hein? Et il y a une différence qui est là. Les femmes haltérophiles, qui sont des athlètes qui s'entraînent autant que les hommes, normalement, ils lèvent moins que les hommes parce que ils sont moins dotés par la nature d'une qualité qui est la force. Mais au niveau d'endurance, de flexibilité, il y a bien d'autres, de précision, il y a d'autres qualités qui ont davantage. Plus faible, donc, dans le sens de moins fort. La force ne sera pas sa caractéristique principale. Ici, on parle au niveau du caractère. Elle va démontrer plus facilement de la douceur et de la bonté. Donc, Marie, la Bible nous dit que si on veut prendre soin de notre épouse, on doit être plus sensible, compréhensif, de démontrer de la sagesse, comprendre les différences, de se réjouir de la vulnérabilité, d'une forme de faiblesse, mais aussi de la douceur de ta femme. Hein? On a besoin de protéger cette douceur-là. Parce que si on le protège pas, hein, ne force pas ta femme à devenir forte dans la vie, parce que tu vas être le premier à être perdant. Colossiens 3:9 va dans la même direction. « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Donc, ça veut dire ne pas s'irriter, pas laisser sortir la colère, hein, la clameur. On vit toutes des déceptions dans la relation de couple. On vit des moments que on est ulcéré, où on est tellement déçu qu'on peut laisser ça sortir. Ne pas le faire. Si le mari s'en prend à sa femme, si on argumente, hein, bien des fois un homme est capable d'être plus fort dans l'argumentation et la femme à ce jeu-là, selon les personnalités, la dynamique du couple, la femme va être perdante, mais le mari aussi, de ne pas argumenter, de ne pas mettre de pression. Quelle épouse et quelle mère sommes-nous en train de former dans notre dynamique familiale par notre attitude en tant que mari? Est-ce qu'on est en train de former en elle une épouse douce, sensible, qui va être là pour prendre soin des enfants ou quelqu'un qui dit, écoute, il n'y a personne qui est là pour moi, moi je vais être là pour moi. Puis je vais faire valoir mes droits. Tenir compte que la femme est plus faible physiquement, tenir compte de sa sensibilité, de sa douceur, c'est se faire du bien à soi comme mari et c'est faire du bien à son foyer. La parole nous dit de montrer de la considération, être compréhensif. Ça veut dire de rencontrer ses besoins. Parfois, c'est des petites choses qui, pour toi, c'est pas grave, ça. Voyons donc, on passe par-dessus. On n'a pas besoin de ça. Mais pour l'épouse, pour elle, c'était extrêmement important. Ça faisait une grande différence. Hein, quand la Bible dit « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux », ben moi, ce que je veux... C'est le gros écran de 55 pouces, donc je vais acheter ça comme cadeau à ma femme, je vais le faire ce que moi je vais le faire pour les autres. Non, non, on fait pas preuve de compréhension. Tu essaies de répondre aux besoins de ton épouse comme elle le ferait pour elle-même, c'était elle qui décidait. C'est dans ce sens-là qu'on veut vraiment prendre soin. prendre soin, nourrir comme son propre corps, c'est être attentif aux besoins de son épouse, comme on le serait pour les nôtres, mais pas de la même façon, d'une façon qu'elle, elle va l'apprécier. Donc, si le mari s'applique à remplir ce mandat comme chef serviteur, ça va venir tout naturellement envers ses enfants. Donc, on va avoir un mari aimant, c'est ce qu'on vient de voir là en une dizaine de minutes. Et maintenant, c'est la fête des pères, on veut voir un mari aimant au bénéfice des enfants. Et on veut introduire la notion de chef-serviteur. Hein? Quand on voit que quelqu'un est un chef dans une organisation, il peut pas faire ce qu'il veut puis il abuse pas de son pouvoir, surtout avec les normes, les valeurs qu'on a au Québec. Quand il y a d'autres, on voit c'est quoi dans d'autres pays quand un chef il peut faire mourir du monde, si quelqu'un s'oppose à lui, il va disparaître. C'est pas un bon chef. Un chef serviteur, c'est celui qui accepte de porter plus de responsabilités, qui accepte d'avoir une autorité pour le bien de ceux qui sont dans l'organisation. Donc, c'est dans ce contexte-là que Dieu veut que le Père soit celui qui accepte d'en porter plus, mais d'être fier de bâtir quelque chose de solide, que l'amour de Dieu soit dans son foyer. Et pour ça, pour le Père qui est un chef serviteur, on va voir l'aspect d'être un leader, quelqu'un qui, oui, il est en avant, mais il est en avant pour une tâche, pour un but, puis il est tellement engagé, puis il veut tellement remplir ce rôle-là d'être un bon père qu'il va être prêt à faire des efforts et à payer un prix. Par rapport au fait d'être un leader, d'avoir une autorité, premier point qu'on veut voir, c'est la position d'autorité. Qu'on le veuille ou non, Père, Jésus t'a donné la position de chef de famille pour utiliser cette autorité pour investir, pour protéger, pour prendre soin de tes enfants. Le problème, c'est jamais d'exercer l'autorité. Le problème, c'est de mal l'exercer. Un des problèmes avec que les papas du passé avaient, c'est qu'ils ne voulaient pas exercer ce rôle-là. Hein. Je me souviens, dans la famille Plouffe, un vieux film, là, j'avais 20 ans, ça sortait et la maman qui avait les 10 enfants qui réglait tout, il y avait une grosse chicane, le père de famille venait pour rentrer dans la maison, puis là, il serait rentré dans la chicane. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé un peu, il a fait du bruit à distance, puis là, tout le monde s'est calmé, tout le monde a arrêté, parce qu'il savait que le père, après sa journée de travail, tout ce qu'il voulait, là, il s'installait dans sa chaise berçante, avec son journal, puis là, il avait tout entendu, il sait que la mère était tout en train de gérer ça, puis là, il dit, « Oui, il y avait ça un problème tantôt quand je suis arrivé? » Non, non, non. Le père, il voulait pas s'en mêler. Il voulait pas exercer cette responsabilité, s'engager dans la vie des enfants. Puis ce qui est merveilleux, toute cette semaine, j'ai pas arrêté d'entendre à la télévision, à la radio, que au Canada, le Québec est la province où les pères sont les plus engagés dans la vie familiale, autant pour les tâches que pour intervenir auprès des enfants. Donc, on est le premier, le meilleur selon ce sondage-là au Canada, oui. Donc, le meilleur sur 10 provinces. On ne sait pas de combien, là, c'est-tu 1 ou 2 % mais... Donc, on s'en va dans la bonne direction et c'est ce que Dieu veut pour nos familles. Avant, l'homme laissait à sa femme, à la maman, le rôle d'intervenir. Lui, il était pas bon dans ça, puis il dit dans ma famille, c'est de même. Mon père non plus, il s'en mêlait pas. C'était ma mère qui s'occupait de tout, puis je le sais pas, ça fait que je fais la même chose. Comme un policier, un enseignant, un douanier ne peut pas dire qu'il n'exerce pas son autorité pour accomplir sa tâche. Des fois, il faut qu'il dise on fouille la voiture, l'enseignant a besoin de dire écoute, là, tu arrêtes, tu te calmes ou tu vas sortir de la classe. Bien, le papa ne peut pas non plus se soustraire à sa position d'autorité sur ses enfants. Donc, Dieu nous l'a donné le jour de la naissance de notre enfant ou le jour de l'adoption ou le jour où on est dans une position où on est père. Donc, premièrement, on veut assumer et remplir notre position de père. C'est la base. À partir du moment qu'on accepte ce rôle-là, là, on veut le faire de la bonne façon. Deuxième point, on veut développer la compétence. On veut développer un savoir-faire pour bien remplir ce rôle. Et à partir du moment que ma petite Catherine, qui va avoir 32 ans cet été, à partir du moment qu'elle est née, puis même quand on était mariés pendant 2 ans sans avoir d'enfant, on courait les cours pour savoir comment être des bons parents, un bon père, une bonne mère. Parce qu'on disait, écoute, on va avoir des enfants, on a eu 3, qui vont être dans notre vie, puis c'est des vies qui sont entre nos mains, puis on n'a pas d'expérience, puis on va faire de notre mieux, mais écoute, on peut-tu au moins se former? S'il y a quelque chose que je veux me former, c'est bien comment être un bon père, et Sylvie, c'était la même chose, comment être les deux ensemble des bons parents. Puis là, on regarde les cours qu'on avait, puis il y avait des philosophies, aujourd'hui, là, on fait le ménage dans tout ça. On dit, ça c'était bon, ça c'était pas bon, ça c'était pas bon. Ça c'était bon, ça c'était pas bon, mais ça vient juste avec l'expérience. Développer les capacités pour accomplir la tâche. Dieu donne une autorité envers nos enfants pour être un bon père. Ça veut dire qu'on fait pas n'importe quoi avec nos enfants. On veut développer nos capacités à bien communiquer, à prendre soin. On veut être ouvert, on veut apprendre. Éphésiens 6, 4, on l'a vu tantôt, hein? « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. » Donc, ça dit, « Mets les conditions en place, sois pas en train de les irriter qui ne veulent rien savoir de toi, de ce que tu dis. » Mais élevez-les, donc élevez-les, ça parle de l'éducation générale. Ça veut dire, comment tu fais ça? En instruisant et en corrigeant. Ça veut dire que tu enseignes, tu expliques ce que tu veux, tu instruis, puis si jamais ils vont pas dans la bonne direction, tu te dis, hey, le chemin, là, c'est vers là, puis eux autres, ils partent vers là, ben tu siffles un peu, tu dis, excuse, regarde là. Ce que je voulais dire, c'est là, puis là, c'est pas la bonne. Donc, il faut le dire d'une façon ou d'une autre, toujours avec sagesse. Quelques petits conseils pratiques pour compléter, hein, au niveau des compétences. Vous allez voir 2 minutes pour donner les conférences, mais juste donner des idées. L'année passée, on a vu Éphésiens, pour la fête des Pères, Éphésiens 6, 4, et on avait vraiment développé. Mais juste un petit rappel. Premièrement, on enseigne par nos vies. Fait que autant compétent qu'on peut être, quand moi je grandis, j'augmente mes capacités à intervenir dans la vie de mes enfants. Parce que le véhicule pour intervenir en tant que père, c'est moi, c'est ma vie, c'est ma façon de parler, ma façon de vivre, ma façon de réagir, ma façon de prendre soin de mon épouse. Donc, si on veut être compétent comme parent, change, grandis. Puis c'est certain qu'on change pas, puis on grandit pas comme ça. Hein. C'est avec beaucoup d'efforts quand Dieu nous fait prendre conscience des choses. Mais l'importance de notre vie, de notre modèle de vie, ça c'est le plus important. Bien des fois, comme parents, on veut que nos enfants changent. « Hey, t'es pas correct, là, t'as besoin de changer. » On a besoin de se dire ça à nous. Deuxièmement, la constance. Ne pas intervenir une fois sur trois, hein? Sinon on les mélange, on les frustre en changeant constamment la limite. Je m'en venais sur la route, là, puis j'ai mon campeur là qui était nouveau, fait que j'avais le cruise, puis j'essayais ça, puis là, je mettais mon cruise à 115. Là, il y avait un peu de circulation, j'étais un peu serré. J'ai dit, à 115, normalement, on n'a pas de contravention. Imaginez que je le mette à 102, puis qu'il y a une police qui m'arrête. Qu'est-ce que je vais dire? Ben, il me semble, là, socialement, vous n'arrêtez pas de dire, la limite, c'est 118. Si t'es en bas de 118, t'es correct, en haut, t'as... Quand ça change comme ça, là, on vient irriter. Imaginez nos enfants. On dit des choses, on les laisse faire cette chose-là 3-4 fois, on les voit, puis eux autres sont petits. Ils le font, mais ils nous regardent, puis on n'intervient pas. Puis la quatrième fois, on les reprend sévèrement. La constance de mettre une limite, puis de la garder. L'unité dans le couple. Il faut s'entendre sur ce qu'on demande, sur ce qui est permis. Si on met une limite, de dire ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Il faut avoir une cohésion dans l'équipe. Il faut avoir une unité pour que ce que dit un, le papa, puis ce que dit l'autre, la maman, ça fait un, que les enfants, là, il n'y ait pas deux enseignants dans la classe puis qui disent « avec elle, on peut, puis avec lui, on peut pas, on ne sait plus. » Dans le couple, pour ça, on a besoin de s'appuyer puis de pas se reprendre devant les enfants. « Ben voyons donc, je te l'ai dit, que je voulais pas qu'ils mangent ça après le souper. » Qu'est-ce qu'on fait? On se fait des petits clins d'œil, puis après, plus tard dans la journée, on s'en parle, puis on développe notre cohésion. Donc, l'importance d'avoir une unité, un respect, puis de travailler comme une équipe. Nos enfants, on a besoin de toujours communiquer de l'amour, peu importe ce que l'on fait. Même si on les reprend, même si on met des punitions, des conséquences à leur action, de la façon qu'on va l'appuyer, l'appliquer, l'enfant, il devrait toujours sentir, « Ouais, je le méritais, mais je sens que mon père... » même si j'aime pas ça quand il intervient, ben je sens qu'il m'aime à travers ça. Compétence dans les communications, éviter de répéter 3, 4, 5 fois en élevant la voix pour dire, au lieu de dire une chose clairement une fois, hein? S'assurer, quand les enfants sont petits, d'avoir leur attention avant. Ça, j'ai appris ça. Tu dis le nom de l'enfant, puis là, après avoir dit son nom, tu attends. Est-ce qu'il te regarde? Un enfant qui ne veut pas obéir, la première des choses qu'il va faire, il va dévier le regard. Il ne voudra pas. Veux-tu me regarder, s'il vous plaît? Et là, tu laisses du temps. Tu restes calme. Et là, quand il te regarde, là, tu dis calmement une fois ce que tu veux dire. Ne pas crier, ne pas menacer, ne pas faire du chantage. Hein, il y a comme, des fois, on écoute les parents, là, puis on dit, je t'as-tu de même? En tout cas, c'est pas beau. Là, là, écoute-moi. Sinon, là, tu viens de perdre ça, puis là, tu vas en perdre. Tu perds ça, puis l'enfant est là, il dit rien, puis... Pas menacer, pas faire de chantage. Quand on le fait, ben, ça nous arrive tout, on se calme, puis on se reprend. Si l'on crie pour se faire obéir ou écouter, il va falloir toujours crier de plus en plus fort, puis de plus en plus souvent. apprendre à être calme. Et on a besoin beaucoup pour savoir c'est où nos faiblesses, qu'est-ce qu'on a vécu comme enfant. Même ce qu'on a vécu comme enfant de la part de nos parents, dans le feu de l'action, instinctivement, on va répéter les mêmes choses. Et moi, il y a plein de choses que j'ai faites envers, envers mes enfants, de crier, de m'énerver, puis c'est ce que je subissais de la part d'un de mes deux parents spécialement. Puis dans mon cœur de père, j'avais le désir de surtout pas faire ça, puis avec l'attention, je faisais la même chose. Donc, de comprendre d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, ça va nous aider à grandir dans nos compétences. On exerce une influence sur la vie de nos enfants par la relation qu'on a avec lui. Donc, on va pouvoir transmettre des valeurs s'il y a un amour qui est là. Et dernièrement, au niveau des compétences, prier pour nos enfants. Il y a des choses que seul Dieu peut faire et on a besoin en couple de venir devant Dieu, de dire « Seigneur, regarde, on peut rien faire. Seigneur, il y a un choix personnel de l'enfant, il y a des circonstances et c'est au-delà de nous. On te demande d'agir. » D'agir et d'intervenir, il y a des choses que Dieu ne veut pas faire à notre place, que nous seuls, on peut faire. Donc, c'est d'avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. Donc, comme père, hein, je crois que les mamans, naturellement, sont plus enclins à lire des livres, à suivre des cours pour être une bonne mère. Et nous, comme père aussi, on veut développer nos compétences. Troisième point, en autorité, ayons du jugement et du discernement. Un équilibre entre la tolérance et la sévérité, entre être trop et pas assez permissif. Puis les parents, là, on vit vraiment des situations qui sont pas faciles. Ça nous demande toute notre petit jus, là, puis il y a des émotions, il y a des tensions, puis là, on a besoin d'avoir ce jugement, d'avoir ce discernement. On a besoin de réfléchir avant les situations, parce que la première fois qu'arrive la situation, puis on n'y a pas pensé, on réagit tout croche. Par rapport à ce jugement, ce discernement, dans Matthieu 23, hein, Jésus qui attaquait, qui reprenait sévèrement ceux qui étaient en autorité, les pharisiens, les conducteurs. Voici ce qu'il leur dit. Conducteurs aveugles, il était l'autorité en Israël, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les petites choses insignifiantes, sans importance, eux autres, ils disaient ça, là, c'est le plus important. Petites choses, mais les choses vraiment importantes. Ils disaient, ah, ça, c'est pas grave. Hein? Jésus a dit, vous donnez la dîme de la nette, des petites épices, puis vous assurez là, de couper les scènes, là, puis... Quand vient le temps de donner la dîme des petites affaires, vous êtes bon dans ça. Mais quand c'est le temps de passer à côté de l'amour, de la bienveillance, de la miséricorde, ça, vous avalez l'éléphant, là, le chameau, sans problème. Donc, comme père, on peut mettre une importance démesurée sur des choses insignifiantes, sur des formes extérieures, sur l'obéissance à des petites règles de rien. Puis en faisant cela, on peut passer à côté de l'important. L'important, c'est quoi? C'est que l'enfant ressente notre amour, puis que l'enfant ressente l'amour de Jésus. Il peut comprendre, il peut s'imaginer que ça fait du sens qu'un Dieu qui l'aime, que Jésus est venu donner sa vie pour lui. Un bon père saura diriger ses enfants en mettant l'accent sur ce qui est le plus important. Les gens sont découragés quand on met beaucoup d'emphase puis d'énergie sur des choses sans importance. En Matthieu 23, 13, toujours les reproches que faisait Jésus, vous ne l'avez pas. Jésus a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Les pharisiens étaient aveugles spirituellement. Ils ne voyaient rien. Ils se faisaient leurs propres règles qui allaient à l'encontre des vraies vérités spirituelles. Il n'y avait pas de discernement spirituel. Le père qui va être un bon leader doit montrer à ses enfants la voie de la vérité afin d'être un facilitateur en mettant pas des obstacles mais en aidant les enfants à franchir les difficultés. Donc, c'est comme ça. Des fois, là, on a toutes sortes de croyances que d'envie chrétienne, ça prend ça, il faut agir de même. Parfois, là, on a même de la pression des autres parents pour qu'on agisse comme ça envers nos enfants. On a besoin de venir à l'essentiel de dire, « Seigneur, c'est quoi que tu veux pour leur vie, là? » À long terme, quand ils vont avoir 20, 25 ans, c'est vers où je veux les amener? Bien, Seigneur, je veux aller à l'essentiel de ça. Puis des petits détails, là, que ça se passe pas, selon mon idée, selon ce que j'aimerais, bien, je suis capable de les mettre de côté. Le Père ne veut pas rendre plus difficile de suivre Jésus. C'est déjà difficile, hein? Ça demande un prix d'être un disciple de Jésus. Le Père veut les aider et les encourager. Pas mettre des fardeaux inutiles, mais les libérer de tout ce qui peut nuire à leur marche. Finalement, d'être un bon berger pour nos enfants. Toujours en parlant d'un chef serviteur, quatrième aspect qu'on veut voir, l'intégrité du Père, hein? Et on va voir deux choses, là, évidemment, à ne pas faire. Donc, on ne veut pas mettre l'accent sur l'apparence extérieure. Verset 28, là, j'ai mis 25-28, mais c'est 23-28, c'est dans le même chapitre. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Les pharisiens étaient les experts dans le camouflage. Leur but, c'était de garder leur autorité en se cachant, en paraissant bien. Il n'y avait aucune intégrité. Il n'y avait aucune transparence, aucune honnêteté. Il n'était jamais question pour un pharisien dans son enseignement de dire qu'il n'était pas en train d'observer d'une façon parfaite toute la loi de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de place pour ça. Eux, ils voulaient juste bien paraître. Ce qui est à l'intérieur de nous, dans nos vies, dans notre monde, dans notre jardin caché, finit toujours par devenir visible. Et comme parents, comme pères, ne tombons pas dans le piège de l'hypocrisie. On doit mettre plus nos efforts à travailler sur notre croissance et non pas sur notre image. Si on est un modèle pour les gens, on veut que ce soit effectivement le cas. Pas parce qu'on s'est développé une image là, qu'on essaie de garder. Nos enfants doivent savoir que ce qu'ils voient à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Que la vie privée et la vie publique ne font qu'un. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de choses que si on savait, là, tout s'effondrerait. De toute façon, nos enfants, puisqu'ils vivent dans l'intimité de notre foyer, puisqu'ils sont toujours là, ils voient tout. Ils entendent tout. Hein, des fois, même, on oublie, là, dans le couple, on peut chicaner, puis s'engueuler, puis... On est tellement habitué qu'ils soient toujours là que là, on se ressaisit. Ils nous voient. On ne peut pas leur cacher grand-chose. On n'a pas à prétendre, à faire comme si tout était parfait, comme si on n'avait pas de lutte, pas de combat. Imaginez l'enfant qui voit tout ce qui se passe dans le foyer, dans la vie intime, et qui voit l'homme qui peut être en avant, devant des grandes églises, puis en train de conduire le culte, en train de dire des belles grandes vérités, puis que tout va bien, puis que quand c'est pas le cas, problème d'intégrité. La clé, c'est quoi? C'est d'être vrai, d'être honnête. Oui, on aspire à obéir à la parole de Dieu. Oui, on aspire à avoir tel amour, telles attitudes dans nos vies, puis des fois, on essaye, puis on réussit, puis d'autres fois, on n'y arrive pas. On doit être honnête envers nos enfants. Il y a des choses... à ne pas partager avec votre enfant de 5 ans. Là, on a besoin d'avoir un peu de discernement. Mais comme père, soyons vrais et honnêtes. Pas de fausse image, pas d'apparence mensongère. Et c'est comme ça qu'on va gagner le cœur de nos enfants. Donc, face à l'intégrité, on veut pas mettre l'accent sur l'apparence en étant hypocrite. Deuxième point, on ne veut pas non plus être inconséquent. Matthieu 23, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire qu'il y avait l'autorité comme de Dieu. C'était eux qui amenaient l'Ancien Testament, c'était eux qui amenaient la parole de Dieu. Donc Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Ils ont des grandes exigences, des hauts standards. Ils mettent sur les épaules des gens de lourds fardeaux, mais eux, hein, Jésus l'a dit dans le même passage, ils ne veulent pas le lever, ce fardeau-là, du bout de leurs petits doigts. On retrouve ici un double standard. Tu dois le faire, mais moi, je le fais pas. Les pharisiens disaient, je suis au-dessus de la loi. Et quand les enfants disent à leur père, mais toi aussi, papa, tu le fais, là, tu nous dis de pas le faire. La réponse classique, c'est quoi, hein? Peut-être qu'on entend moins ça, mais quand j'avais 10 ans, tous les papas, toutes les mamans disaient ça, hein? C'était une phrase, cliché. C'était quoi? Fais pas ce que je fais ce que je te dis. On ne veut pas avoir cette attitude-là. On peut le dire en face, là, tu sais, puis après ça, on prend le temps de s'expliquer. Il est souvent dit de ne pas irriter et de ne pas décourager nos enfants. Et le fait d'être inconséquent, ça détruit la confiance des enfants. Une telle incohérence provoque l'irritation, le dégoût, puis même la révolte. Hein? Il y a des adolescents qui, 14, 15 ans, 16 ans, ça explose parce qu'il y a trop d'incohérence. On ne peut plus accepter. La clé, c'est quoi? C'est la franchise et l'humilité. Oui, comme père, on peut dire, oui, ça m'arrive de pas faire ce que je te dis, puis sache que je suis triste de cela, Puis je le sais que c'est pas facile pour toi parce que c'est pas facile pour moi, mais je suis convaincu que ce que Jésus nous demande, c'est la bonne chose. Puis c'est pas parce que c'est dur que je veux y renoncer. Puis je veux aussi que toi, tu cherches à faire le bien. Donc, veux-tu qu'ensemble, on s'aide, on s'encourage à faire ce que Jésus nous demande? Le leader, le Père, enseigne par sa vie. Il enseigne en incarnant les principes. Puis quand on manque notre coup et on ne fait pas ce qu'on voulait, ben on doit être les premiers à lever la main et à dire, écoute, c'est mon erreur, c'est à moi la faute. Une personne en autorité spirituelle peut demander aux autres d'obéir à des bonnes choses en autant que lui-même cherche à les mettre en pratique et qu'il soit honnête face aux difficultés qu'il va rencontrer. C'est ce qu'on doit faire comme papa. On garde la même direction. On instruit selon la parole, puis quand on s'en écarte, hein, on est prêt à se corriger, à admettre, à être honnête. Dernier point, par rapport à l'autorité, juste terminer avec quelle est la vraie autorité. C'est où qu'on a le plus de pouvoir, hein? Puis ça, c'est quand on a la crédibilité. Puis la crédibilité, c'est la confiance que nos enfants nous accordent. Quand on est un jeune pasteur, puis qu'on commence, je me souviens, à 28 ans, en 89, quand j'ai été voté pasteur, j'arrive, puis c'est ma première semaine, là. On me donnait une autorité en tant que nouveau leader. Mais en fin de compte, tout ce qu'on me donnait, c'était l'opportunité d'exercer une autorité sur les gens. Puis, mais la vraie autorité, je ne l'avais pas encore. Parce que les gens ne me connaissaient pas. Ils n'avaient pas entré en relation avec moi. La vraie autorité ne vient pas seulement de la position, hein. On dit que la position, c'est le niveau d'autorité le plus faible parce que tu l'as juste parce que tu occupes la fonction. C'est pas juste la position, c'est pas juste les compétences, la popularité, mais elle vient, la vraie autorité, de ceux qui décident de nous suivre. On accepte que tu aies une influence sur nos vies. La vraie autorité n'est pas quelque chose qu'on achète, c'est pas quelque chose qui nous est délégué. C'est quelque chose que les gens nous accordent. En naissant, à la naissance de nos enfants, nous, les papas, on a une crédibilité aux yeux de nos enfants parce que on est tout pour eux. Ils nous font confiance. Ils croient absolument tout ce qu'on leur dit. Donc, il y a cette crédibilité-là qui est bonne, qui nous permet de les diriger. C'est à nous, comme parents, comme papas, au fur et à mesure de la croissance de nos enfants, de préserver, de protéger, de faire grandir cette crédibilité-là. C'est à nous de gagner leur cœur et leur confiance. Parce qu'ils vont avoir constaté au fil des années qu'on en est digne. Il n'y a aucun enfant qui peut dire, « Ah, moi, mon père, il est parfait, il ne m'a jamais déçu, il fait toujours ce qui est bien. » Et même si un enfant disait ça, ce serait même dangereux parce que il y a un climat dans la famille où on doit se fermer les yeux, puis on doit honorer le Père à tout prix, puis on n'est pas dans la réalité. Donc, il n'y a aucun papa, il n'y a aucun enfant qui peut dire que son père était parfait. C'est pas ce qu'on vise. On veut pas être impressionnant. On veut que nos enfants aient confiance en nous, qu'ils voient nos faiblesses, qui voit surtout notre désir, puis qui voit qu'on aurait été un père dévoué, un père sincère, un père qui aimait vraiment ses enfants et qui s'est donné, et malgré les erreurs, il a fait de son mieux, puis il a été là pour nous. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour nos papas qui ont fait de leur mieux, qui ont cherché à avoir cette crédibilité, d'avoir notre confiance, et on veut reconnaître, Seigneur, leur engagement envers nous. Seigneur Jésus, maintenant, à notre tour, comme Père, donne-nous d'être ces gens à ton image, Jésus, qui sont honnêtes, transparents, qui sont vrais. Seigneur Jésus, marcher avec toi, remplir les exigences de ta parole, obéir à tes commandements, c'est vraiment au-delà de nos forces. Il y a des choses qui sont plus faciles pour nous, il y en a d'autres qui sont un réel défi. Seigneur Jésus, aide-nous à conduire nos enfants dans tes voies. Seigneur, tu vois les difficultés qu'on peut rencontrer, les difficultés relationnelles. Seigneur Jésus, donne-nous ton amour, donne-nous de recevoir de ta part ton amour afin qu'on puisse le donner à nos fils, à nos filles. Seigneur Jésus, fais de nous des bons pères, fais de nous des meilleurs parents, Seigneur. Ce qu'on a de plus précieux, chacun d'entre nous, c'est nos enfants. Il n'y a rien qui a une plus grande valeur que nos enfants. Et Seigneur, dans ta grâce, permets-nous d'avoir une influence positive. Permets-nous d'avoir un impact dans leur vie. Merci pour leur amour. Merci pour leur dévotion. Merci pour le pardon que nos enfants nous accordent, pour leur désir de nous faire toujours une place dans leur vie. Oui, Seigneur, bénis nos familles. Bénis-nous en tant que Père. On te le prie en ton nom. Amen.
Amen.